à la une en Israël, ma chère Lise, aujourd'hui, il va être question d'une nouvelle unité mixte de Tsahal en Samarie. Je vous laisse le soin de nous présenter notre invité, mais à mon avis, on va vite le reconnaître, et d'échanger avec lui sur ce sujet.
Alors, je suis en ligne avec Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires, que tout le monde connaît bien. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Alors, Tsahal vient de créer Panther, donc c'est un nouveau bataillon de combat mixte qui est le premier à garder en permanence la frontière en Judée-Samarie. On est étonné que ça n'existait pas déjà dans Tsahal, Raphaël.
Les bataillons mixtes existent dans Tsahal. Le plus connu, c'est Caracal, qui était au départ uniquement féminin et qui aujourd'hui accepte des garçons, et Bardelas, qui était uniquement masculin, qui accepte des filles. Donc Panther, c'est une nouvelle unité donc mixte qui vient à l'ombre de la tragédie d'un garçon et d'une fille de Tsahal qui ont été tués par un terroriste sur la frontière égyptienne. Et là, il s'agit donc d'une autre frontière, ou plutôt d'une ligne de démarcation, donc entre les territoires et Israël, qui sera donc sous la responsabilité de ce bataillon Panther, dans lequel un des pelotons, effectivement, est un peloton mixte, garçons et filles, à une époque où, en fait, il y a un manque de personnel pour assurer la sécurité dans les territoires, car l'opération Briser la vague et la vague d'attentats qui sévit en ce moment mobilise des bataillons de combat qui sont destinés à s'entraîner pour une éventuelle guerre avec l'Iran ou le Hezbollah, et qui sont en fait neutralisés auxquels on impose donc ce travail de la sécurité dans le territoire, ce qui fait aussi à faire appel à la réserve. Donc beaucoup de réservistes sont appelés, et pour éviter donc tout cela, eh bien ce nouveau bataillon Panther va un petit peu alléger le fardeau des unités combattantes. C'est un bataillon qui est plus spécialisé, qui va être destiné à cette mission-là spécifique, et donc permettre à d'autres unités, eh bien, d'être libérées de cette mission et de s'entraîner pour les missions auxquelles elles étaient destinées à la base.
Alors, en gros, ça veut dire, Raphaël, qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de beaucoup plus de soldats en permanence, en fait, en Judée-Samarie, et que jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, on faisait venir des réservistes, et là, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un bataillon de soldats en exercice, en service continu.
Oui, d'autant plus qu'il faut quand même un entraînement continu et une bonne connaissance du terrain, parce que ce qui est important lorsqu'on assure la sécurité dans les territoires, c'est de connaître l'endroit, c'est de connaître les gens. Il y a beaucoup même de Palestiniens qui ne veulent pas d'ennui, qui veulent que les choses restent calmes, et donc sur lesquels on peut compter pour obtenir des informations. Et il vaut mieux donc qu'ils connaissent les soldats de Tsahal qui patrouillent la région. Ça permet une meilleure relation avec les populations locales. Ça donne aussi une impression de sécurité aux gens des implantations, parce qu'ils voient ces patrouilles, ils reconnaissent les soldats qu'ils rencontrent sur leur chemin. Donc ça a beaucoup d'avantages d'avoir cette présence plus permanente que le simple réserviste qui quitte son boulot, vient pour quelques jours et rentre au boulot. Il ne connaît pas forcément très bien ni la région, ni ses habitants.
Alors, le deuxième dossier d'aujourd'hui qui est passionnant, je trouve, Raphaël, c'est le fait que le service de renseignement de Tsahal a commencé par un immigrant juif iranien à la fin des années 60, qui a donc fait son alia et qui parlait perse, qui s'est trouvé dans une unité où il écoutait les communications des pays arabes, et qu'un jour, il s'est mis à écouter l'armée iranienne et à noter tout ce qu'il entendait. Alors au début, il le faisait sur son temps libre, et puis après, évidemment, c'est ce qui est devenu Kohav, qui est la base de ce qui est après et l'unité 8200. C'est étonnant, cette histoire, Raphaël.
Oui et non, parce que d'une part, dès le départ, dans le travail du renseignement, il y a bien sûr l'écoute. Il y a aujourd'hui, avec les technologies actuelles, il y a énormément d'autres façons d'obtenir de l'intelligence. On parle de SIGINT, ELINT, on en passe, ça veut dire toutes les façons par radar, par satellite, par ordinateur d'obtenir de l'information, mais demeure jusqu'à aujourd'hui dans l'unité 8200 un immense département qui est l'écoute des radios, des télévisions, la lecture des journaux et des magazines, ce qu'on appelle l'intelligence à découvert, qui est exposée, mais qui est exposée seulement si vous êtes assez fin, expert et malin pour déceler dans des articles de journaux ou dans une émission de télévision quelque chose. On a parlé tout à l'heure de la connaissance du terrain pour les territoires, et là c'est la connaissance du terrain, de la culture, des mentalités, et pour déceler donc tout d'un coup quelque chose qui cloche ou quelque chose qui pourrait donner une information sur quelque chose qui est en train de se mijoter. Et donc ça a toujours existé, avec l'avantage que les Israéliens, un petit peu d'ailleurs comme la CIA, les Américains, sont un pays où viennent des immigrants du monde
entier. De partout. Eh oui.
De partout. C'est une grande avec force. La langue maternelle. Et donc aujourd'hui, même dans l'unité 8200, on utilise évidemment des jeunes soldats dont la langue maternelle est soit l'arabe, soit le perse, soit de n'importe quelle autre langue, avec la différence qu'aujourd'hui, il y a des cours d'immersion. Et par exemple, pour l'arabe, eh bien, même des jeunes qui ne parlent pas l'arabe, mais qui sont choisis, sélectionnés pour d'autres qualités, eh bien, peuvent apprendre l'arabe en 3 mois dans un cours d'immersion totale. Mais il y a toujours une préférence donnée
à ceux qui ont la langue maternelle
et qui connaissent bien, de par leur famille, de par leurs antécédents, qui connaissent bien la mentalité et la culture,
la géographie, tout,
du pays
quoi.
D'où ils viennent.
Ouais, bien sûr. Et ma dernière question, Raphaël, c'est pas un hasard, j'imagine, si Tzahal a justement publié sur son site web cette histoire du début de Kohav, c'est un avertissement, on ne peut plus clair, envoyé à l'Iran.
Oui, bien sûr, ça veut dire qu'on en sait beaucoup plus qu'ils ne le croient, mais je crois qu'ils s'en doutent quand même. Donc c'est un signal, il y en a beaucoup en ce moment. C'est encore un signal. Cette unité, c'est pas un gros secret, ça existe dans tous les pays du monde, mais évidemment en Israël, il y a ce plus-là des immigrants du monde entier auxquels on joint aujourd'hui donc la puissance des ordinateurs, c'est-à-dire avec des algorithmes qui eux aussi lisent le journal. Et eux, parfois, détectent, et pas toujours l'être humain, la chose qui cloche dans un article qui peut être complètement anodin, mais en fait qui contient un élément, dans le cas que vous rappelez de ce personnage des années 60, il avait vu un article qui parlait de l'aigle qui s'était en allé.
Exact.
Et l'aigle qui s'était en allé, c'était en fait l'avion du chat. Mm. Et le chat qui s'était tout simplement enfui d'Iran avec son avion personnel, ce qui avait donné la sonnette d'alarme quant à ce qui se passait en Iran.
C'est vrai. Et néanmoins, l'intelligence artificielle, va remercier quand même le personnage en question, parce que, étant donné que, enfin, en tout cas, de ce que je vois déjà, l'intelligence artificielle traduit pas bien l'hébreu, et alors donc le dictionnaire militaire hébreu farsi, heureusement qu'il y a des gens qui parlent vraiment, qui l'ont commencé avant que l'intelligence artificielle existe. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires. À très bientôt.
Au revoir.